Luc 4, à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Voilà, Jésus-Christ, en quelque sorte, fait sa première prédication de cette manière-là. Dans la synagogue, il entre et il lit le passage de Ésaïe que nous venons de lire. C'est une prophétie d'Ésaïe concernant le Messie. Donc, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dans Ésaïe 61, c'est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Alors Jésus, quand il a lu ce texte, il a dit, cette parole, maintenant, s'est accomplie. Donc c'était une prophétie d'Ésaïe, et il dit, maintenant, ça s'est accompli, donc je suis là. Donc quand il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, donc c'est sur lui-même Jésus. Jésus est venu accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il est venu libérer les captifs. Il est venu renvoyer libres les opprimés. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux gens simples, aux gens qui sont tristes. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. C'est ainsi que nous pouvons lire un exemple dans Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7. Il est écrit ceci à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et lorsqu'on tourne quelques pages, on arrive à Luc 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Gérasiens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Amen. Une fois de plus, Jésus manifeste, il accomplit la prophétie qu'il venait de lire. Il est venu libérer les captifs. Cet homme était possédé, enchaîné, fou en quelque sorte. Mais Jésus-Christ le guérit, il le libère. Cette femme avait perdu son fils unique. Et Jésus-Christ ressuscite son fils et redonne à la maman son enfant. Il y a plein d'autres exemples. Nous lisons dans Jean 5. Dans Jean 5. Jean 5, il est écrit ceci, donc au début. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule et qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Nous continuons toujours avec Jean au chapitre 8. À partir du premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Parce qu'il s'attendait bien sûr à ce que Jésus ne fasse pas tuer cette femme, ne fasse pas lapider cette femme. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus. Cette femme allait être lapidée, donc on allait lui lancer les pierres jusqu'à la mort, à cause d'un péché qu'elle avait commis. Et Jésus vient, il délivre la femme de cette condamnation, parce que Jésus, c'est le sauveur, c'est le Fils de Dieu, le libérateur des captifs. Il a dit clairement en commençant sa mission, Dieu m'a envoyé pour libérer les captifs. Et c'est écrit dans 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Maintenant, nous allons lire notre verset d'aujourd'hui, le verset principal. Nous restons toujours dans Jean 8, c'est le verset 35 et 36. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Peut-être qu'il faut qu'on lise le contexte, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Voilà notre verset d'aujourd'hui, le verset principal. L'esclave n'est pas toujours dans la maison. C'est le fils qui est toujours, tout le temps dans la maison. Il connaît les secrets de la maison. Il connaît les désirs de son père. Et surtout quand c'est un fils unique, c'est écrit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus a été baptisé, il y a une voix du ciel qui s'est fait entendre en disant ceci, « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, c'était l'héritier de son père. Son père avait mis toute son affection sur lui. Donc, tous les secrets de son père étaient entre ses mains. Fils unique, il n'y avait pas de polémique. C'était le fils unique de Dieu. Et là, Jésus dit, le fils est toujours dans la maison. Il sait ce qui se passe. Il connaît les envies de son père. Il connaît les décisions de son père. Surtout quand c'est un fils unique. Il sait tout de son père. Tout ce qui est de son père est à lui. Jésus dit maintenant, si le fils vous dit, votre dette est annulée, vous pouvez avoir confiance parce que lui, il est dans la maison. Il est dans la cellule de décision. C'est ça la justification. Pourquoi Jésus-Christ peut-il nous libérer ? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a tout reçu de son Père. Il est écrit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'est donné. » C'est Jésus-Christ qui parle. « Tout pouvoir m'est donné. » Il a reçu tout pouvoir pour libérer, pour sauver. Mais ce n'est pas un pouvoir facile. C'est un pouvoir difficile qu'il a reçu. C'est un pouvoir que lui-même a acquis à la croix en se laissant crucifier à cause de nos péchés. Il a eu le pouvoir de décider maintenant sur tout ce qui se passe sur la terre. Il décide sur tout. Tout pouvoir m'est donné. C'est ainsi qu'il dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus n'est pas venu comme un grand magicien, un grand prophète, un grand guérisseur. Il est venu comme le Fils de Dieu. Dieu a envoyé son propre Fils après avoir envoyé toutes sortes de serviteurs. C'est écrit dans Hébreux, au chapitre 1er. Dieu nous a parlé par toutes sortes de personnes autrefois. Mais aujourd'hui, il a décidé de parler par son Fils, de venir lui-même par son Fils, régler la question de l'homme, régler le problème de l'homme. Le problème de l'homme étant l'esclavage du péché, étant le péché. Le péché rend l'homme mauvais, le péché fait entrer l'homme dans la prison. Et notre Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a créé l'homme avec amour, a toujours souffert de cela, de la rébellion de l'homme, du refus de l'homme de venir à lui. Mais comme il aime l'homme, il n'a pas voulu laisser l'homme périr dans son péché. Après avoir envoyé toutes sortes de serviteurs, toutes sortes d'humains pour nous annoncer que nous devions nous repentir, nous devions changer, il a envoyé maintenant son propre Fils en se disant, « Mon Fils pourra expliquer les choses clairement parce qu'il est avec moi. Mon Fils pourra régler les choses clairement, puissamment, parce qu'il a mon autorité. » Le Fils a l'autorité du Père. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises et dans certains royaumes, il peut y avoir un homme qui est roi, mais son fils qui commence déjà à tout diriger. Et même les ministres savent que si le fils ne veut pas de toi, le père va suivre le fils. Dans certaines entreprises, le père est encore là, mais c'est le fils qui dirige totalement. Et tout le monde obéit de la même manière au père, autant qu'au fils. Et c'est dans cet esprit-là que Jésus vient. Il ne vient pas comme grand guérisseur, grand prophète. Tout ça, ce ne sont que des conséquences de ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui décide sur tout. Il peut dire à un microbe de se tuer, le microbe meurt. Il peut dire à un atome de se transformer, l'atome va se transformer. C'est le Fils de Dieu, c'est le Créateur de l'univers. Donc il peut certainement nous libérer. C'est pourquoi il le dit lui-même. Comment vous pouvez être sûr que vous pouvez être libéré? C'est parce que c'est le Fils qui vous libère. Les gens qui parlent, les prophètes, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a entendu, ce sont des humains. Ce sont eux-mêmes des gens qui ont besoin de Dieu. Mais quand le Fils te libère, le Fils de Dieu, tu peux être sûr que ta délivrance est totale parce que lui, il n'est pas esclave. Lui, il est dans la maison. C'est sa maison. C'est lui le chef. Avec assurance, il veut qu'on comprenne qu'on peut être libéré réellement. Il y a des gens qui doutent. Lisons Luc 7. Ils doutent tellement ils ne sont pas sûrs d'être libérés. Ils préfèrent rester dans le mal. Satan leur dit, mais puisque ton mal est grave, puisque tu aimes trop l'alcool, tu aimes trop la cigarette, tu aimes trop le mensonge, tu aimes trop la sexualité, il n'y a pas de solution pour toi. La solution, c'est de considérer que Dieu n'existe pas. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. C'est un mensonge parce que Dieu existe. La solution, c'est de considérer que
Puisqu'il y a trop de religions, il n'y a pas de vérité. C'est un mensonge. Puisqu'il y a la vérité, et la vérité, c'est Jésus. Et dans le monde, il y a parfois la fausse monnaie. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars que le vrai dollar n'existe pas. Le vrai dollar existe. Ce n'est pas parce qu'il y a des sosies de quelqu'un que la personne originale n'existe pas. La personne originale existe. Nous lisons dans Luc 7. Parce qu'il faut comprendre pourquoi Jésus peut te libérer. C'est parce qu'il est le Fils et qu'il a tout reçu de son Père. Il est écrit au verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Jésus dit, « Mais c'est ce monsieur qui a compris qui je suis. » Le monsieur envoie des gens dire à Jésus, « J'ai mon serviteur, j'ai mon domestique qui est malade. » Et les gens, les anciens juifs qui avaient compris qui était Jésus, ils viennent le voir comme nous devrions aller voir Jésus, nous tous. Je parle de ceux qui croient. Nous devions aller le voir comme notre grand frère. Comme notre grand frère. Mais sachant que c'est un grand frère tout puissant. Mais tu devrais guérir le serviteur de ce monsieur parce que pendant que toi tu n'étais pas là, il nous a aidés. Les anciens juifs sont partis voir Jésus pour dire, c'est toi que nous attendions, tu es notre chef. Mais pendant que tu n'étais pas là, ce monsieur-là a conçu notre synagogue. Tu devrais l'aider en retour pour ce qu'il a fait pour tes frères. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Jésus se dirigeait pour aller prier pour le serviteur de ce monsieur. Mais le monsieur qui avait compris vraiment qui était Jésus, tel que nous devrions tous comprendre, il vit, il envoie les gens lui dire, « Mais non, mais tu n'as pas besoin de venir jusque chez moi pour guérir mon serviteur, parce que toi tu es le Fils de Dieu. » Et le pouvoir du Créateur, c'est sur toi, parce que tu es son Fils unique. Donne seulement un ordre, comme moi je donne un ordre à mes soldats. Donne un ordre, et à distance mon serviteur peut être guéri. Jésus dit, mais oui, mais cet homme a compris. Il a compris qui je suis. Vous savez, j'ai connu un événement quand j'étais à l'école primaire. Ah, Jésus est venu libérer les captifs, hein, les prisonniers, les opprimés. C'est la vérité. Mais ça, ce n'est pas Jésus qui m'avait libéré. Je vais nous parler de notre Jésus, le Fils de Dieu, notre grand frère. J'étais le souffle-douleur d'un caïd dans mon école, à l'école primaire. Vous savez, quand on est esclave, ce n'est pas la souffrance qui est le plus grand problème, c'est la peur. La peur t'asphyxie. Vous savez, les gens qui souffrent dans leur foyer, ce n'est pas
La souffrance physique qui est le plus grand problème, c'est la peur. Quand tu sens que le fameux mari va revenir bientôt, c'est cette peur-là qui est plus que tout. Quand tu sens que, aïe, l'heure de retour de la femme est arrivée. Là. Et c'est cette peur-là qui paralyse. Tu n'as plus de vie. Au point même de ne plus réfléchir à ton salut. Tu restes comme ça. Vous savez, la peur faisait que j'en parlais même pas à la maison. Mais un jour, il a commis l'erreur de me faire vraiment mal au point que à la maison, c'était visible. Mon oncle, qui était comme mon grand frère, puisqu'on avait presque le même âge, il dit, mais pourquoi tu as mal comme ça? Elle me dit, mais il y a quelqu'un qui m'a fait un croc en jambe, je suis tombé, et puis et il a l'habitude de m'embêter. Ah bon? Eh bien, j'avais aussi un autre grand frère. Vous savez, il y a des gens qui, à un certain âge, ils grandissent très vite. On n'avait que 3 ans ou 4 ans d'écart, mais ils étaient déjà comme des adultes. À l'école primaire, ils étaient déjà costauds comme des adultes. Alors, ben, on viendra faire un tour à ton école à la sortie. Là. Bien, mais ils sont sortis de leur école à pied, ils sont venus à 4. Donc mes 2 grands frères et 2 de leurs amis, nos voisins de quartier. Bien-aimés, ils ont embarqué le monsieur qui faisait le caïd dans mon école. Ils l'ont tenu par la ceinture, 2 personnes, ils l'ont embarqué comme ça. Ils l'ont humilié devant tout le monde. Vous savez, depuis ce jour-là, j'étais le roi à l'école, bien-aimés. Mes grands frères ont agi. Et Jésus-Christ est venu comme ça. Il est venu pour que cesse la peur chez ceux qui aiment Dieu. Il est venu, la peur doit cesser. La peur de l'alcool, ça doit cesser. La peur du péché, ça doit cesser. La peur des démons, des magiciens, ça doit cesser. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer. Vous savez, pour certaines personnes, c'est impossible de s'imaginer de vivre sans la cocaïne. Mais Jésus est venu pour que tu reçoives la délivrance, que tu vives librement. Dieu l'a envoyé comme notre grand frère. Dans Jean 13, c'est écrit. Jésus, avant de s'en aller, aima ses frères au maximum. Au maximum. Dieu, dans sa prescience, dans sa sagesse, dans sa connaissance infinie, il connaît ceux qui devaient se convertir. Il les connaît. Et donc, il les appelle déjà des frères de Jésus. C'est pourquoi, même quand on n'est pas encore converti, Dieu nous envoie le grand frère pour venir nous libérer. Libérer les captifs. Le Fils de Dieu, notre aîné, il a dit à la veuve, ne pleure plus. Il ordonne au fils, à son fils, de retrouver la vie. Et le fils ressuscite. Cette femme qu'on allait lapider à cause de ses péchés. Jésus dit une phrase, bien-aimé. Est-ce qu'il a utilisé des armes? Non, une seule phrase. Il dit que celui qui n'a jamais péché commence par jeter la première pierre à cette femme. Ils étaient nombreux, il était seul. Et il a recommencé, pour ne pas les regarder, pour ne pas les impressionner, il a recommencé à écrire sur la terre, sans les regarder, chacun à cause de cette phrase-là, on tournait les talons du plus vieux, parce que les plus vieux ont plus de péchés que les plus jeunes, du plus vieux au plus jeune. Ils ont fui, et la femme était libre. Elle était libre. Parce que le libérateur des captifs est là. Si le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Voilà notre verset. Si le Fils est dans la maison, il sait ce qui se passe. Quand il te dit, il n'y a pas de problème, tu peux prendre, papa ne dira rien, il sait. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Si le Fils vous libère, vous serez complètement libre.
les gens sont esclaves du diable. Comment le diable rend les hommes esclaves? Il a une force qu'on appelle le péché. Le péché, c'est le fait de vivre contrairement à la volonté de Dieu, contrairement à la parole de Dieu. Et on connaît les quelques péchés qui se retrouvent aussi dans nos codes civils et pénals. Le mensonge, le vol, l'assassinat. Mais il y a plus que cela. Il y a tout ce qu'on fait qui nuit à notre prochain. Il est écrit dans la parole, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Tout ce qui nuit à notre propre corps, parce que tu vas prendre la cigarette, ça va te tuer vite et tu vas laisser tes enfants orphelins. Pas à l'âge qu'il fallait. Le péché, c'est l'égoïsme. Or, aujourd'hui, notre code civil ne prévoit pas de punir l'égoïsme. C'est pour dire que le péché est beaucoup plus puissant que notre code pénal, que notre code civil. C'est l'égoïsme. C'est l'égocentrisme. Penser qu'à soi-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui produit les divorces? C'est le fait que les gens ne pensent qu'à soi-même. À un certain moment, ils ne sont pas satisfaits par quelque chose. Ils préfèrent, au lieu de lutter pour retrouver la satisfaction, ils préfèrent chercher la satisfaction ailleurs. C'est la facilité due à l'égoïsme. Le mariage pour tous, c'est la facilité. Les gens, ils savent bien que c'est contre nature. Vous savez, en Croatie, on a fait le référendum. Les gens ont dit non. Les gens savent bien que c'est contre nature. Mais puisqu'il y en a qui veulent de ça, légalisons. Du moment que ça ne se fait pas dans ma maison, du moment que ça ne se fait pas dans ma chambre, légalisons, puisqu'il y en a qui en veulent. C'est de l'égoïsme. Et les hommes sont esclaves du diable. Vous savez qu'il y a des gens qui tuent 8 personnes, 9 personnes, 10 personnes, des tueurs en série. Mais ils sont esclaves d'une force qui les pousse à tuer. Mais cette force est entrée comment? C'est entrée par le péché. Ils ont commencé par faire des petits péchés. Et ça ne fait qu'augmenter. Dans le monde, il y a un proverbe qui dit « Qui a bu, boira ?» On commence par des petits péchés, des petits mots. Et ça ne va faire aller que plus loin. Jusqu'à un jour, on va faire des contrats avec le diable lui-même et faire du tort à grande échelle aux humains. Et maintenant, quand on est dans ces péchés, le diable devient notre maître. C'est ce que dit Jésus au verset 35. Il dit, celui qui commet le péché devient l'esclave du péché, le diable devient son maître. Et il se manifeste de toutes sortes de manières. Et il n'y a pas que le diable. Il y a toutes les conséquences liées au premier péché d'Adam. Puisque le monde était confié à Adam au moment qu'il a péché, le monde a été pollué par le mal. C'est là que les maladies sont venues, les tremblements de terre, toute forme de souffrance est la conséquence du péché originel. Et tout cet ensemble-là fait que lorsque nous naissons dans l'esclavage du péché. Nous naissons dedans. Puisque nous naissons avec un corps qui a du mal à l'intérieur. Et ce mal-là finira par se manifester un jour par la colère, par la haine, par la jalousie. Et ça nous rend prisonniers, ça nous rend malheureux. Un jaloux, c'est quelqu'un, on l'a pas piqué, on l'a pas blessé par un couteau, mais il est malheureux de voir que l'autre réussit. C'est de l'esclavage. Et on n'est pas bien. Et le fait qu'on soit pas bien, ça nous amène à détruire après les autres. Ça nous entraîne dans des maladies graves. Et les gens, quand ils lisent Luc 4, quand Jésus dit « Je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, je suis venu donner la vue aux aveugles, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés », ils insistent toujours sur la délivrance des démons et la guérison physique. Mais tout ça, c'est la conséquence de la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est quoi? C'est de dire que le Créateur des cieux et de la terre a envoyé son Fils pour faire de moi aussi son fils à lui, sa fille à lui, et que je ne sois plus dans la prison de ce monde, je ne sois plus esclave de ce monde, mais que je sois une créature libre, libérée de l'argent. Souvenez-vous, dans le temple, qu'est-ce que Jésus a fait en tant que fils de Dieu? C'est-à-dire, le chef du temple, c'était lui, puisque le temple, c'était à l'honneur de son père. Il a chassé les vendeurs du temple. Il a dit, mon père avait dit que cette maison soit une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus est venu nous dire, Dieu est plus grand que l'argent. Aujourd'hui, les gens se suicident dès qu'ils perdent le CDI. Parce que le CDI est devenu leur Dieu. Ils se suicident lorsqu'ils n'ont plus d'argent dans le compte bancaire. Le Seigneur Jésus est venu te dire, cherche le royaume de Dieu et tu auras le reste. C'est vrai qu'il faut travailler. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. C'est-à-dire, malgré le fait que tu travailles, tu restes pauvre. Jésus est venu dire, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est Dieu. Lorsque nous travaillons, c'est pour être utile dans la société. Mais qui va s'occuper de nous? C'est notre papa. Ainsi, tu es libéré de la pression financière. Tu es libéré des maux de tête produits par les problèmes d'argent. Tu vas travailler, mais tu sais que ton Père au ciel s'occupe de toi. Jésus est venu t'annoncer cette nouvelle-là. Il est venu te dire que tu peux être jeune et vivre sans copain. Tu peux être jeune et vivre sans copine. Tu peux être jeune et vivre la vie pure et sainte de Dieu. Vous savez, je ne dis pas la vie pure et sainte d'un adulte, parce que je suis pasteur, je peux vous certifier que, avec l'expérience que j'ai, en discutant avec les uns et les autres, les adultes commettent beaucoup plus de péchés que les jeunes. C'est une fausse idée de croire que quand on est jeune, c'est là qu'on commet beaucoup plus de péchés. C'est faux. C'est l'inverse. Le jeune est irresponsable. C'est vrai. Il est irresponsable. Il ne calcule pas les dangers. Mais dire que les jeunes sont plus enclins à commettre les péchés que les adultes, c'est une erreur. Donc quand les jeunes commettent le péché, ils sont autant responsables que les adultes. Il ne faut pas se dire, les gens ont dit, oh mais c'est leur âge. C'est faux. L'âge n'affaiblit pas par rapport au péché. C'est l'homme, tout homme a le péché en lui. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Et Jésus vient pour casser ce genre de philosophie, casser ce genre de conception qui veut faire croire que quand on est jeune, on peut pécher, et puis quand on sera vieux, c'est là qu'on changera. C'est faux. Moi, j'avais une amie qui avait plus de 88 ans. Elle me disait, je pensais qu'en vieillissant, je deviendrais beaucoup plus sage. Je me rends compte que je suis de moins en moins sage. Et je me fâche beaucoup plus souvent. C'est faux. C'est Dieu qui donne la victoire sur le mal, sur le péché. Et Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu renvoyer libre les opprimés. Si tu étais esclave de l'argent, que tu ne sois plus esclave de l'argent. Comme on dit en français, à faire les comptes d'apothicaire. Calcule les 0,5 centimes. Il y en a parfois qui font 5 kilomètres pour gagner 30 centimes en changeant de boutique. Mais il oublie que les 5 kilomètres vont consommer l'essence. Il va perdre les 30 centimes. Tellement l'esclavage de l'argent est dedans. Il n'y a plus la liberté. Jésus est venu nous donner la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu vis tranquillement, conduit par le Saint-Esprit. Il y en a qui n'étaient pas forts en arithmétique à l'école, mais dans la vie, ils sont devenus plus forts que les mathématiciens en arithmétique. Quand tu lui poses une question de calcul dans un contexte de cours, il ne connaît rien. Mais quand c'est dans un contexte d'argent, il te donne la réponse tout de suite. Parce que l'esclavage de l'argent est entré. Vous savez, l'esclavage de l'argent même entraîne les gens à ne plus donner aux riches. On se dit, mais lui, il est déjà riche. Mais alors,
Jésus vient nous dire, c'est nous les riches, parce que c'est notre Père qui possède tout. Dans 2 Corinthiens 6, Paul dit, je suis pauvre, mais en même temps je suis riche, parce que tout ce qui est sur la terre, c'est à mon Père. C'est ce que Jésus est venu nous dire. Comme ça, tu es libre. Tu n'as plus peur. C'est ton Père qui possède tout. Voilà la vraie délivrance que Jésus-Christ apporte. Il vient vaincre le péché en nous. Dire que tout est possible à celui qui croit désormais. Autrefois, vous étiez liés par la magie, l'argent, les amulettes. Il y en a qui portent des fils, certains Africains ou, portent des fils autour des reins. Je ne sais pas pour protéger de quoi. Parce que si je prends on prend une paire de ciseaux, on coupe ça, je ne sais pas dans le fil, ça te protège de quoi. Puisqu'on peut couper ça avec une paire de ciseaux. Tous ces esclavages-là, des statuettes dans les maisons, de l'huile que t'a confiée une grand-mère quand tu voyageais, tout ça c'est de l'esclavage. Jésus est venu nous donner la liberté, la délivrance. Il y en a qui dorment en mettant une Bible sous l'oreiller. Mais c'est l'esclavage. Le jour où il n'y aura pas une Bible, tu vas faire comment? Il y en a qui répandent du sel. Mais qui t'a dit que le démon ne mange pas le sel? C'est de l'esclavage. Jésus est venu nous donner toute autorité. Il a dit dans Luc 10, 19, lisons ça. Recevons l'autorité que nous donne le Fils. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Jésus est venu nous libérer de tout ça, du pouvoir des petits magiciens. Il est venu nous libérer de tout ça. Nous sommes désormais libres parce que nous devenons fils de Dieu. Lisons dans Actes des Apôtres chapitre 3. Parce que là, on a parlé de Jésus. Maintenant, Jésus nous a donné le pouvoir, nous qui avons cru en Dieu. Et si tu n'as pas cru en Dieu, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de reconnaître que tu es faible, tu es prisonnier du monde et le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers est venu pour te libérer de l'esclavage du péché et du monde. Actes des Apôtres au chapitre 3. Alors, il est dit ceci au verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. L'homme qui était infirme commence à marcher. Tout le monde est super étonné. Alors les gens viennent en masse regarder Pierre. Écoutez la réponse, la phrase de Pierre. Pierre voyant cela, le discours de Pierre. Pierre voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac,
et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de nous, de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Pierre dit, mais pourquoi vous vous étonnez? C'est la puissance du nom de Jésus qui a guéri cet homme, ce n'est pas nous. Alors, au lieu de rester dans l'étonnement, reconnaissez que Dieu vous a visité maintenant. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vous entrez dans le salut. Bien-aimés, les miracles sont des signes. Les miracles, ce n'est pas pour satisfaire l'égoïsme humain. Les miracles sont des signes qui montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Ce sont des signes qui montrent que Jésus vient du ciel. Afin que nous tous, nous nous disions, voilà la solution qu'on attendait depuis longtemps. Le grand frère est venu. Maintenant, nous pouvons nous ranger derrière lui pour aller auprès de notre papa. Amen. C'est ce que Jésus te dit aujourd'hui. Veux-tu continuer à vivre dans l'esclavage du péché? Parce qu'une question qu'on va se poser est la suivante. Mais pasteur, mais pourquoi aujourd'hui, nous avons l'impression que les choses que nous demandons, ça prend du temps pour que nous recevions une sorte de réponse. Je dis que c'est faux. Ce n'est qu'une impression. En réalité, ce que nous demandons, avec la même attitude que ces gens qui ont reçu les guérisons, nous allons recevoir ça instantanément. La grande question, c'est est-ce que tu veux vraiment arrêter avec le monde? Parce que beaucoup disent ce que nous demandons. Mais bien aimé, comme je viens de le dire, Jésus n'est pas venu faire des miracles pour les miracles. Les miracles sont des signes. À un moment donné, les gens sont venus le chercher. Il leur a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous m'avez vu multiplier les pains. Vous me cherchez parce que vous avez envie de manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est presque la même chose. Vous ne me cherchez pas parce que la multiplication des pains a été pour vous un miracle tellement extraordinaire que c'était le signe que je suis celui que vous attendiez, le Messie, pour vous sauver intégralement. Vous me cherchez pour que chacun reçoive son miracle personnel égoïste et mange du pain. C'est pourquoi vous me cherchez. C'est ça pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas parce que vous voulez utiliser le signe du miracle de multiplication de pain pour changer de vie, mais vous me cherchez parce que chacun de vous a un besoin personnel. Il veut que je réponde à son besoin. Jésus veut qu'on le cherche parce qu'on a compris qu'il peut changer toute notre vie, pas seulement une partie de notre vie. Alors, beaucoup qui disent, mais pourquoi? Ça fait longtemps que je demande le mariage, je ne l'ai pas. Mais toi, tu demandes que le mariage. Jésus n'est pas venu donner que le mariage. Il est venu changer toute une vie. Il n'est pas au service des égoïstes. Il est au service de son Père pour faire de l'homme un homme libre qui n'a même plus peur du mariage. Qu'il y ait un mariage ou pas, l'homme est bien avec Jésus. Tu es libre. Que tu aies l'argent ou pas, tu es bien. Que tu aies des frères et sœurs ou pas physiques, tu es bien. Parce que tu es entré dans la vision de ton Père qui t'a créé. Tu es entré dans la vision de ton Créateur. C'est ce que Jésus est venu faire. Alors, quand nous demandons, nous ne recevons pas. L'apôtre Jacques le dit, nous ne recevons pas parce que nous demandons pour satisfaire nos convoitises. Mais celui qui demande le miracle de Jésus parce que Il veut glorifier Dieu dans le miracle. Dieu lui donne automatiquement, il voit la gloire de Dieu. Donc la question c'est, comment entrer dans cette délivrance totale? Alors souhaite dans ton cœur maintenant de vivre selon le plan de Dieu. Libéré du train quotidien du monde, de la logique du monde. Libéré de cela. Vous savez, quand on était jeune chrétien, on croyait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On croyait que c'était un verset biblique. Donc tu es chrétien, mais tu te dis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, ce n'est pas la Bible. La Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute cette mentalité-là doit changer. Si tu es prêt à ça, c'est là que tu vas voir les miracles du Seigneur. C'est là que tu vas connaître qu'il est le libérateur des captifs. Est-ce que tu veux changer totalement ou tu veux juste ton miracle? Mais bien aimé, Jésus n'est pas au service des égoïstes. Il est au service de son Père pour changer totalement une vie. C'est le chant qu'on chante. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. C'est ce que Jésus veut, que tu sois libre. Et comme je disais récemment, comment un homme peut donner des milliers d'euros pour acheter une poudre qu'il met dans le nez? Bien aimé, essayez de mettre de la farine dans vos nez, vous allez voir comment vous allez éternuer. Hein? Mais quelqu'un va dépenser des milliers d'euros pour acheter la cocaïne et mettre dans le nez. Au lieu d'acheter, bien aimé, vous avez le jus d'ananas 100% pressé. Voilà, Carrefour, c'est écrit pressé. Quand tu bois un verre comme ça, tu as l'impression que tu as atteint le paradis. Jus d'ananas. Alors l'autre, il va dépenser des milliers d'euros pour acheter de la poudre qu'il met dans le nez. Comment il en est arrivé là? C'est le péché. C'est la colère. Et Jésus est venu nous libérer de tout ça. Comme il y a quelqu'un dernièrement qui s'est suicidé. Elle était une femme. Elle a cru qu'elle pouvait devenir un homme. Elle a calculé son coup. Elle dormait, on lui faisait tout. Donc elle a dessiné ce qu'elle voulait devenir. Les tatouages, raser les cheveux. Donc quand elle s'est réveillée, elle s'est regardée au miroir et s'est suicidée. Mais toi, tu croyais devenir quoi? Une fourmi ou quoi? Non! Le péché a rendu les gens fous. Là, maintenant, quand Jésus te libère, tu es jeune, tu es 17 ans, tu vois les filles tournant en mini-jupe, tu as l'impression que tu es en train de voir des tortues. Parce que Jésus t'a libéré. Voilà. Elle dandine en mini-jupe, toi, tu as l'impression de voir. Mais la tortue là, Franklin. Donc, parce que toi, tu es dans les choses du ciel. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu recevras de Dieu. Mais si tu veux juste réussir ton bac et continuer ta vie, c'est normal que tu ne vois pas la main de Dieu. Le Seigneur veut nous changer intégralement. C'est ce qu'il veut faire. Libérer les captifs. Vous savez à quoi ça sert d'être riche? D'être insatisfait. Je préfère être pauvre, satisfait. Parce que le riche qui a 3 voitures, le jour où une autre marque sort quelque chose, il devient pauvre par rapport à celui qui en a 6. Et il est insatisfait. Mais toi qui n'as rien, tu es heureux parce que tu sais que chaque jour, les anges t'accompagnent dans le bus, les anges t'accompagnent dans le métro. Tu fais les choses. Vous savez, que ceux qui ont étudié autrefois, vous savez, à l'école, parce que ce sont des choses qu'on ne donne pas aujourd'hui, on ne donne plus aujourd'hui. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Le lièvre était rapide, mais il a perdu la course. La tortue est arrivée première. Nous qui sommes de Jésus, même en métro, nous allons gagner la course contre les gens qui sont en TGV. Voilà. Même avec les 2 chevaux, le Peugeot 206 pourri, nous sommes là toujours. Parce qu'il y a la gloire de Dieu dedans. Amen. Tu respires bien. Donc tu vas être dans une 800, je ne sais pas comment, et puis moindre rayure, on ne t'apprend que la voiture est rayée, aïe, crise cardiaque. Mais nous, on nous apprend que la voiture est rayée, on se dit, ah, si c'est rayé comme ça, Jésus veut remplacer. Amen. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quand on lui apprend une mauvaise nouvelle, il veut dire, mais c'est une bonne nouvelle. En réalité, Dieu veut faire quelque chose derrière. Ça, c'est ce que Jésus veut nous donner comme liberté. C'est la libération du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà la question. Est-ce que tu choisis d'entrer dans une nouvelle vie ou de continuer à gérer ta vie? C'est ça la question. Et tous ceux qui sont dans la décision d'entrer dans une nouvelle vie où Jésus les libère, commencez à dire dans vos cœurs, Satan, je ne veux plus de toi. Commencez à dire dans vos cœurs, cette maladie-là qui t'a impressionné pendant longtemps, je vous ai raconté mon problème à l'école, non? Mais ce n'était que, le monsieur n'était pas impressionnant, mais il m'a impressionné. Oh, j'avais des gens plus forts, mais je ne me rendais pas compte tellement j'étais impressionné. La maladie t'a tellement impressionné que tu oublies que tu as Jésus plus fort que ça. Commence par dire tout ça, c'est zéro, tu ne m'impressionnes plus. Le problème, je ne sais pas quoi qui t'impressionnait pour polluer ta vie. Dis que tu ne m'impressionnes plus. Mon grand frère est là. Jésus, le roi des rois, le fils de Dieu, le libérateur des captifs. Et désire maintenant entrer dans une nouvelle vie avec le Seigneur. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pur et profond, n'est pour jamais. Venez, Jésus, pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Peut-être la peur que tu avais de ton problème est due au fait que Jésus n'était pas total en toi. Il faut être humble et honnête. Parce que quand Jésus est total en toi, tu n'as plus peur. Voilà, nous demandons à tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus de passer devant. Nous allons prier ensemble pendant que nous chantons. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez Jésus. La donne pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus, pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et la peur ne l'atteint plus. Gloire, gloire. Deuxième couplet, vous qui tombez à chaque pas.
Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre celui qui se jette en ses bras, peu à toujours le suivre.
Quand Jésus
remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus.
Vous qui tombez
à chaque pas, venez Jésus délivre celui qui se dans ses bras peut à toujours le suivre.
Quand Jésus remplit un cœur, car il ne chancelle plus.
Vous qui tremblez sous la terreur, que l'âme vous inspire. Venez, votre libérateur a détruit son empire.
Avec lui,
nous revivrons.
Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens me livrer à toi. Je veux que tu prennes tout, tout dans ma vie, sous ton contrôle. Fais de moi une nouvelle création, avec une mentalité nouvelle, une intelligence renouvelée. Délivre-moi de l'obstacle qui m'empêche d'expérimenter ta gloire. Remplis-moi de ton esprit pour te servir avec puissance, simplicité et vérité. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu je viens.
J'abandonne à mon grand frère.
Entre tes mains,
j'abandonne.
Oh. entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Vous allez dire avec moi, j'ai maintenant un grand frère, le Fils du Dieu Tout-Puissant, mon Créateur et mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.